Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous inviter à la prière pour nous préparer à ce moment d'écoute de la parole de Dieu. Oui, nous voulons être disposés, notre Dieu, à ce que tu nous parles ce matin, et tout particulièrement peut-être à l'un ou à l'autre qui a besoin d'entendre quelque chose de ta part. Merci parce que, en ayant entendu, lu ce texte qui nous rappelle tout ce que Jésus a enduré, nous voulons encore te dire merci. Et encore nous souvenir que c'est grâce à cela, et uniquement grâce à cela, que nous pouvons nous tenir devant toi. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir être attentifs à ce que ton esprit nous dit ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez depuis quand les chrétiens utilisent la croix comme signe distinctif ? Depuis quand la croix est le symbole des chrétiens et qu'ils l'utilisent pour justement revendiquer leur identité de chrétien ? Est-ce que vous savez depuis quand ? Est-ce que c'est le cas depuis toujours, c'est-à-dire depuis le début de l'Église, ou est-ce que c'est venu plus tard ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pardon ? Depuis les croisades ? Alors c'est avant les croisades. Au moins depuis l'an 300. Ouais. Alors, on n'est pas loin. C'est vrai qu'il semble que dans les premiers temps, les chrétiens n'utilisaient pas la croix comme symbole. Ils utilisaient plutôt un des signes qu'on connaît bien, le poisson. Parce qu'en grec, en fait, le poisson se dit ictus, et que ictus désigne, en fait, en acronyme, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc, c'était une manière de s'identifier entre chrétiens. Surtout à une période où la foi chrétienne n'était pas encore tolérée, acceptée, et que les chrétiens vivaient des persécutions. Donc une manière de s'identifier, c'était d'utiliser, par exemple, le poisson. Ou encore les initiales en grec de Jésus-Christ. Mais lorsque l'Empire romain a basculé du côté du christianisme, lorsque l'Empire est en quelque sorte devenu chrétien, on va mettre des guillemets à cela, sous Constantin Ier, eh bien c'est là que la croix est devenue le signe des chrétiens. Au 4e siècle, donc vers 300 et quelques. Et aujourd'hui, cela apparaît comme une évidence, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la croix, tout de suite, on pense aux chrétiens. Nous le voyons dans les églises, on en a quelques-unes ici. Les chrétiens portent ce signe autour du cou ou autour du poignet. Certains l'ont même tatoué sur leur corps. Même si l'on rappelle parfois que c'était un instrument de torture utilisé par les Romains, il faut bien admettre que depuis la crucifixion de Jésus, la croix a plutôt une valeur positive qui renvoie au salut, comme nous allons le voir ce matin. Pour celles et ceux qui nous rejoignent ce dimanche, nous sommes à la fin d'une série de prédications que nous avons démarrées au début du chapitre 14 de l'Évangile selon Marc. Nous sommes parvenus ce matin au chapitre 15, dans la deuxième partie de ce chapitre. Dans ce récit qui raconte successivement la crucifixion, la mort et la mise au tombeau de Jésus. Et tout au long de cette série de prédications, nous avons suivi un homme confronté à la souffrance. Cet homme, Jésus, avait dit à ses disciples, au chapitre 10, qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ce que nous lisons en Marc 10, verset 45. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Il avait aussi annoncé qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et aussi qu'il allait ressusciter. C'est exactement ce que Marc raconte dans ses chapitres 14 et 15. Rappelons juste les faits avant notre texte. Jésus a été trahi par Judas, il a été arrêté, injustement condamné par le conseil religieux juif de l'époque, le Sanhédrin. Il a comparu devant le gouverneur romain Pilate, qui n'a rien eu à lui reprocher. Et pourtant, qu'il a laissé être livré à la crucifixion sous la pression d'une foule déchaînée. Et les soldats romains, c'est ce que vous avez vu la semaine dernière, les soldats romains en ont profité pour se moquer de lui, une couronne d'épines posée sur sa tête. Et c'est vrai que le texte de ce matin, qui prend la suite de ce chapitre 15, et très riche. Et il serait facile de passer du temps à scruter et à commenter chaque détail. Et j'avoue que dans ma préparation, quand j'étais en train de préparer ce texte, j'étais un peu perdu au milieu de toute cette succession de scènes qui s'enchaînent rapidement, au milieu de tous ces personnages qui sont autour de la croix. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a plein de monde autour de la croix, qui sont à proximité ou à distance de ce qui était en train de se passer. J'étais un peu perdu. Bon, c'est une manière de parler, hein, mais j'étais un peu perdu jusqu'à ce que je me concentre sur celui qui est au cœur de ce récit, Jésus. Quand nous lisons ce récit, il ne fait pas de doute que tout tourne autour de Jésus. Parce qu'au milieu de tous ces personnages que nous allons encore mentionner tout à l'heure, il est le personnage principal. Il est littéralement le personnage central, placé au milieu entre deux brigands. Et pour éviter justement de nous perdre dans les détails, nous devons lire ce récit en regardant à lui, à la croix, à cette croix. Il y en avait trois, mais à cette croix-là. C'est pourquoi je vous propose trois temps pour ce message. D'abord, des réactions contrastées par rapport justement à ce que les gens autour voyaient de cette croix. Une identité dévoilée, la manière dont cette identité de Jésus va se dévoiler peu à peu dans ce texte, et puis un message qui nous est destiné. Des réactions contrastées, une identité dévoilée, un message qui nous est destiné. D'abord, concernant ces réactions contrastées, je viens de le dire, il y a beaucoup de personnages qui interviennent dans ce récit. Les uns expriment leur hostilité à l'égard de Jésus, et les autres plutôt, on va dire, leur sympathie. Et on peut distinguer trois catégories de personnes. Donc j'ai essayé de faire une synthèse. Trois catégories de personnes aux réactions différentes. La première catégorie, ce sont les personnes plutôt silencieuses. En tout cas, Marc ne rapporte pas leurs paroles. Donc on va admettre que ce sont des personnes silencieuses. Eh bien, on le voit dès le verset 21. Et je vous propose d'avoir le texte sous les yeux, parce qu'il ne sera pas affiché, et qu'on va le parcourir à plusieurs reprises. Donc Marc 15, à partir du verset 21. Qu'est-ce que nous lisons ? Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Voilà le premier personnage silencieux. Ce Simon se trouvait à cet endroit. Son arrivée semble tout à fait fortuite. Et pourtant, il va jouer ce rôle de l'aidant qui porte la croix que Jésus ne pouvait pas porter à ce moment-là, très certainement affaibli par les coups qu'il avait reçus. Il avait besoin d'aide. Et d'après les données historiques que nous avons sur cette pratique de porter sa croix, le condamné devait effectivement porter la partie horizontale de la croix jusqu'à son lieu d'exécution, ici en l'occurrence Golgotha, sur son lieu d'exécution où se trouvait la partie verticale. Et ici, la symbolique est forte quand on lit cela, puisque Jésus, dans son enseignement, avait lancé cet appel au chapitre 8. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La symbolique est forte. Ici, c'est Simon de Cyrène qui littéralement porte la croix de Jésus. Toujours dans cette première catégorie, mais à l'autre bout du récit, et je vous propose de voir au verset 40, à l'autre bout du récit, nous retrouvons d'autres personnages silencieux. Qui sont-elles ? Des femmes, nous dit-on au verset 40, qui regardaient de loin. Et j'attire votre attention sur le verbe « regarder », qui est très important ici. Qui regardaient de loin. Et qui sont clairement du côté de Jésus. Certaines sont nommées, et notamment on précise qu'elles ont suivi Jésus, qu'elles ont servi Jésus pendant qu'il était dans son ministère. Mais il est en même temps difficile d'évaluer leur nombre exact, parce que Marc dit également au verset 41, beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem étaient donc présentes. Beaucoup d'autres femmes. Donc des personnages pour l'instant silencieux, mais ô combien importants au moment de la résurrection. Et nous retrouvons deux d'entre elles, notamment au moment où Jésus est mis au tombeau. Et vous remarquez au verset 47, quel est le verbe qui est utilisé ? Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient. où l'ont déposé Jésus. Elles ont regardé de loin la croix, la mort de Jésus. Elles regardaient là où Jésus a été mis au tombeau, pour bien aussi attester qu'elles ne se sont pas trompées de tombeau au moment où elles ont cru effectivement que le tombeau était vide. C'était bien le tombeau de Jésus. Et ces femmes sont présentées donc comme les témoins oculaires à la fois de la mort, de la mise au tombeau et bientôt de la résurrection de Jésus. Et si vous regardez au chapitre 16, le verbe « regarder », qui peut-être n'est pas toujours traduit comme ça, mais le même verbe en grec en tout cas, est utilisé au moment de la résurrection. Ça, ce sont les personnages qui sont silencieux. Deuxième catégorie, ce sont les personnes qui se moquent de Jésus. Et là, elles sont bruyantes, celles-là. Nous pourrions en parler longuement de ces personnes qui se moquent de Jésus au moment où Jésus est crucifié. Et je veux passer en revue ces gens. D'abord, nous avons les soldats romains. Alors en fait, les soldats romains se moquent de Jésus avant notre texte, donc avant le verset 21. On le voit, ils l'ont déguisé en roi de pacotille, lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, et avec cette salutation pleine d'ironie, « Salut, roi des Juifs !» Mais si les soldats romains se moquent de Jésus, en fait, les passants ne font pas mieux. Et les chefs religieux juifs non plus. Ils provoquent Jésus de la même manière. On lit au verset 30, « Sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Ou encore au verset 31, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même !» Et le verset 32, « Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions !» Et Jésus aurait très bien pu le faire s'il n'était pas venu pour une autre mission. Et même les deux brigands sur la croix ajoutent leurs insultes. Et nous retrouvons dans ces versets un échantillon de toute la méchanceté des hommes, de la cruauté dont les hommes sont capables. Imaginez cela, il se moque de quelqu'un qui est en train de souffrir sur une croix. C'est aussi cruel que des gens qui viendraient dans les hôpitaux pour se moquer des malades en phase terminale d'un cancer. C'est le même type de cruauté. Jésus est méprisé par tous ces gens qui l'insultent à ce moment-là. Et il souffre cela, il supporte cela. En réalité, ces gens ne comprennent rien à ce qui se passe sous leurs yeux. Tout comme ceux qui pensent que Jésus se met à appeler le prophète Élie. On est toujours dans cette catégorie des gens qui se moquent de Jésus. Et c'est vrai qu'à l'époque, on croyait parmi les Juifs qu'Élie devait revenir et secourir les justes. Et eux aussi, ces gens qui croient que Jésus est en train d'appeler Élie au moment où il pousse son cri, eh bien eux aussi s'amusent avec Jésus, comme on peut le voir au verset 36. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Alors que Jésus est en train d'agoniser, ces gens se permettent encore de s'amuser avec lui. Ça, c'était la deuxième catégorie. Troisième catégorie et dernière catégorie, elle concerne deux hommes dans notre histoire. Les deux interviennent après la mort de Jésus. Les deux se positionnent en faveur de Jésus. D'un côté, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé dans le cœur de l'officier romain. Mais en voyant comment Jésus est mort, il ne pouvait que reconnaître, verset 39, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Bien sûr, il nous faudra revenir sur cette parole qui contraste complètement avec les moqueries que nous avons évoquées. Et puis, il y a cet autre homme, parce que je vous ai dit, il y a deux hommes, cet autre homme, Joseph d'Arimathée, qui se présente courageusement à Pilate pour pouvoir récupérer le corps de Jésus afin de lui offrir une digne sépulture. Et ce respect vis-à-vis du corps de Jésus, en plus du fait qu'il attendait lui aussi le royaume de Dieu, sont des indices que ce Joseph s'est placé du côté de Jésus, alors même qu'il fait partie du Sanhédrin, ce même conseil qui a condamné Jésus. Mais Luc, dans son évangile, précise qu'il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Et puis Matthieu dit plus clairement qu'il était un disciple de Jésus. Face à Jésus, face à la croix, face à la mort de Jésus, les réactions sont contrastées. Et je n'ai pas parlé de Pilate, qui était étonné d'apprendre que Jésus était mort aussi vite, alors qu'un crucifié, de temps en temps en tout cas, pouvait survivre jusqu'à plusieurs jours. Et en réalité, toutes ces réactions, il ne faut pas juste les prendre telles quelles, mais elles nous mènent à la même personne, Jésus, dont l'identité nous est clairement dévoilée. C'est là l'objet de notre deuxième temps dans ce message, une identité dévoilée. Après avoir évoqué toutes ces réactions, j'aimerais faire trois observations en lien avec l'identité de Jésus. Comment cette identité nous est déclinée dans ce texte ? Si la vie de Jésus nous permettait déjà d'en savoir plus sur son identité, sa crucifixion et sa mort ne font pas exception. Elles nous disent aussi quelque chose au sujet de Jésus. La première observation, c'est que ce texte doit se lire en ayant en tête le psaume 22. Est-ce que vous l'avez en tête ? Le psaume 22. Il s'agit d'un psaume de David dans lequel il fait appel à Dieu. Il crie sa détresse à Dieu. Il est en proie à la menace, aux moqueries de ses adversaires. Et dans ce psaume, David se sent abandonné par Dieu. Mais il demande quand même son secours. Il demande quand même l'aide de Dieu. Et la fin de ce psaume a une toute autre tonalité, puisque le psaume se termine par la louange à Dieu, Dieu qui a secouru celui qui a fait appel à lui. Et il me semble que, volontairement, Marc nous raconte les derniers instants de Jésus en faisant référence à ce psaume. Je vous donne quelques exemples au fil du texte. D'abord, sans s'en rendre compte, les soldats romains agissent comme un des versets du psaume 22. Psaume 22, verset 19, « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. » Si le psaume 22 décrit d'abord l'expérience du roi David, il est clair que ce que Jésus vit à cet instant est l'ultime accomplissement de cette parole. Il est le juste par excellence qui souffre injustement. Ça, c'est le premier indice que nous trouvons. Le fait que les soldats romains, qui avaient cette pratique de se partager les vêtements de celui qui était condamné, puissent faire cela, fait écho à ce texte du psaume 22. Autre exemple, eh bien, nous lisons au verset 29 de notre texte, « Les passants l'insultaient et secouaient la tête. » Ils secouaient la tête. Ce dernier détail peut sembler anodin à la lecture. Et pourtant, il faut l'associer au verset 8 du psaume 22, où nous lisons ceci, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. » Ou ils secouent la tête. Donc là aussi, le fait de mentionner ce détail est une manière de nous dire, « Regardez, le psaume 22, ou souvenez-vous du psaume 22, ce que sans doute les lecteurs de l'époque avaient en mémoire. Et puis enfin, un dernier exemple, mais le plus flagrant, je pense que vous l'avez aussi, c'est le cri de Jésus sur la croix. L'allusion est tout à fait évidente, puisque Jésus est en train de reprendre exactement les paroles du deuxième verset de ce psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus exprime à l'aide de ce psaume 22 ce qu'il ressent à ce moment-là. Une profonde détresse. Une profonde détresse face à l'abandon de son Père. Lui qui n'avait jamais à craindre la désapprobation de Dieu, là il est en train de la vivre. Désormais c'est la coupe de la colère divine qu'il est en train de boire et il doit la boire jusqu'au bout. Rappelons avec le théologien Henri Blocher que ce n'est pas à titre personnel que Jésus est frappé par Dieu. Ce n'est pas pour ses fautes à lui, parce que de toute façon il n'en a pas, mais ce n'est pas pour ses fautes que Dieu le juge. Donc ce n'est pas à titre personnel que Jésus est frappé, mais c'est à titre officiel qu'il doit vivre tout cela en tant que représentant de l'humanité qui a péché. Donc c'est à titre officiel que Jésus est puni et non à titre personnel. C'est donc parce que Jésus est venu pour porter nos péchés sur lui qu'il est ici en train de faire face à une telle détresse qui le pousse à crier de cette manière. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et après 6 heures de souffrance sur la croix, c'est ce cri que Jésus pousse. Pourtant, dans sa détresse, vous le remarquez, il dit « mon Dieu ». Il s'adresse encore à Dieu. Il s'adresse encore à son Père. Il s'accroche encore à son Dieu, même dans la détresse. Ça, c'est la première observation. Que ce texte de Marc 15, il faut le lire avec le psaume 22 en tête. Deuxième observation, remarquez la mise en scène grotesque. On a un écriteau où sont inscrits les mots « le roi des Juifs ». On a le fait que Jésus est placé comme sur un trône au milieu, avec un brigand à sa droite et un autre à sa gauche. Ce qui est un écho à peine voilé de ce que Jean et Jacques avaient demandé à Jésus auparavant, qu'il puisse s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus. Mais ici, la mise en scène est grotesque. Les chefs religieux aussi se moquent de ce soi-disant roi d'Israël. Et c'est le théologien Donald Carson qui souligne toute l'ironie de cette situation. Derrière ce qui n'est qu'un jeu, ce qui n'est qu'une plaisanterie, ce qui n'est qu'une moquerie, en fait, la vérité fait surface. Ceux qui se moquent de Jésus n'y croient pas un instant que c'est le roi des Juifs. Mais pourtant, c'est le roi des Juifs. Voilà l'ironie. Et Carson l'intitule ainsi, « L'homme dont on se moque en le déclarant roi est bel et bien roi ». Oui, Jésus est véritablement le roi des Juifs, celui que Dieu a choisi pour son peuple. Autrement dit, le Messie, ou en grec, le Christ. Carson relève aussi toute l'ironie de cette moquerie. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Mais oui, précisément, Jésus ne peut pas se sauver lui-même s'il veut sauver les autres. S'il veut nous sauver. Malgré la provocation, Jésus n'a pas cédé à cette tentation d'échapper à la souffrance. Et il avait le pouvoir de le faire. Ou d'échapper à cette mort. Par amour pour nous, Jésus est resté sur la croix. Et toujours Carson qui dit « Ce ne sont pas les clous qui le retiennent sur cette croix maudite. » Ce ne sont pas les clous qui le retiennent, qui l'empêchent de descendre, mais sa résolution sans réserve de faire la volonté de son Père, par amour pour lui. Et dans ce cadre, c'est son amour pour des pécheurs comme moi. Il ne peut vraiment pas se sauver lui-même. Fin de citation. Si Jésus est resté sur cette croix, c'est par amour pour nous. Et en même temps, bien sûr, pour obéir entièrement à la mission du Père. Et ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu, qui l'ont empêché de descendre. C'est parce qu'il était résolu à faire la volonté de Dieu. Jésus ne pouvait pas se sauver lui-même pour que nous puissions être sauvés. Et ce que les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi ne comprenaient pas, c'est que le véritable Messie devait souffrir, devait mourir pour les péchés de son peuple, afin de pouvoir lui obtenir le pardon des péchés. Il fallait que ça passe par là. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que sa mort fasse office de sacrifice pour tous les péchés du genre humain. Et puis, troisième observation, si nous étions en face de la croix, qu'aurions-nous ressenti ? Qu'est-ce que nous aurions éprouvé ? Est-ce que nous aurions supporté de voir la souffrance et la mort de Jésus? À l'époque, s'il y a bien des personnes qui étaient habituées à voir des crucifiés, c'était les soldats romains. Et pourtant, ce jour-là, cet officier romain qui se trouvait en face de Jésus, on nous le précise au verset 39, il était en face de Jésus, voyait pour la première fois un homme qui ne mourait pas comme les autres. Lui qui était habitué à voir très certainement des condamnés à mort, pour la première fois, il voit quelqu'un qui ne meurt pas comme les autres. La manière dont Jésus a expiré lui fait dire « cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Et c'est un Romain qui le dit. Alors, il est difficile de savoir à quel point il avait compris le sens profond de ce qu'il était en train de déclarer. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que pour lui, Jésus n'était pas comme les autres. Même mort, Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu. Déjà vivant, si on pouvait le reconnaître comme Fils de Dieu, c'était déjà très bien. Mais même mort, Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu. Et particulièrement chez Marc, ce titre a de l'importance. Parce que si vous vous reportez au tout premier verset de l'Évangile, voici comment l'Évangile de Marc commence. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le début et la fin de l'Évangile contiennent cette déclaration à propos de Jésus. Il est le Fils de Dieu. C'est confirmé par ce Romain qui, devant la croix, devant quelqu'un qui est mort, dit « c'était le Fils de Dieu ». Le Fils de Dieu qui a offert sa vie en sacrifice, de telle sorte que nous n'ayons plus besoin ni d'un autre temple que celui de Jérusalem, ni d'autres sacrifices pour nous approcher de Dieu. C'est bien effectivement le Fils de Dieu qui est mort sur cette croix. C'est bien Dieu le Fils en personne. Et même devant un tel état d'humiliation, et on peut peut-être à peine imaginer à quoi ressemblait le corps de Jésus au moment où il était sur cette croix, devant un tel état d'humiliation, un non-juif reconnaît le Fils de Dieu. Premier signe sans doute que le salut est désormais pour toutes les nations. Contrairement aux apparences qui induisent les passants en erreur, celui qui souffre sur cette croix souffre premièrement comme un juste au milieu de ses ennemis, à l'instar de l'expérience de David décrite dans le psaume 22. Il souffre comme le Messie d'Israël qui ne peut pas se sauver lui-même, précisément pour pouvoir nous sauver. Et puis il souffre et il meurt comme le Fils de Dieu qu'un non-juif a pu reconnaître. Est-ce ainsi que nous voyons aussi le crucifié? Reconnaissez-vous derrière cet homme de douleur le Fils de Dieu? Voilà pour l'identité dévoilée. Intéressons-nous pour terminer au message qui nous est destiné. Si nous lisons ce matin ce texte de l'Évangile selon Marc, c'est que son message nous concerne. La croix dévoile la véritable identité de Jésus. Non pas un homme qui méritait cette condamnation. Non pas un révolutionnaire ennemi de Rome et moqué par ceux de son peuple. Mais un roi serviteur et sauveur. Voilà la véritable identité de Jésus. Jésus est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est le sens de son sacrifice sur la croix. Et quelles sont donc les implications pour nous? Eh bien, sur la croix, Jésus a souffert l'abandon et la colère de Dieu pour que nous n'ayons pas à passer par là. Dans notre expérience d'hommes et de femmes pécheurs, nous passons peut-être par des doutes jusqu'au sentiment d'être abandonné par Dieu, alors même que nous croyons en lui. Et je pense que nous ne sommes pas à l'abri de tels doutes. Et en même temps, il faut bien avouer que rien dans notre expérience, si nous avons bien compris la détresse de Jésus, rien dans notre expérience n'est comparable à ce que Jésus-Christ a vécu lors de ses derniers moments avant de mourir. Notre pire détresse ici-bas n'égale pas la sienne. Et ça doit nous donner de l'assurance. Ça doit nous rassurer. Jésus a été condamné à notre place pour que nous n'ayons pas à expérimenter l'abandon de Dieu au degré où il l'a vécu. Et nous pouvons vivre effectivement une expérience déconcertante quand dans nos plus grandes difficultés, nous avons l'impression que Dieu ne répond pas. Quand nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais si Dieu ne nous répond pas, est-ce le signe de son abandon ? Non. Si nous sommes en Christ, si nous sommes enfants de Dieu, une autre réalité prédomine sur nos impressions. Si notre Seigneur nous a aimés au point de ne pas descendre de la croix, c'est que véritablement rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et dans nos coups durs, nous savons que nous n'avons pas perdu la faveur de Dieu. Il n'a jamais été promis à des chrétiens qui vivraient une vie sans difficulté, sans problème, sans grande difficulté, sans détresse, sans souffrance, parfois atroce. Il n'a jamais été promis cela. Est-ce que ça veut dire que Dieu les a abandonnés ? Non. Est-ce que ça veut dire que ces chrétiens ont perdu la faveur de Dieu puisqu'ils rencontrent toutes ces difficultés, tous ces malheurs ? Est-ce que ça veut dire cela ? Non. C'est avec cette vérité qu'il nous faut traverser les épreuves de la vie. Mais remercions Dieu qui a décidé dans sa grâce de ne pas abandonner celles et ceux qui lui appartiennent. Remercions Jésus qui a payé à notre place et qui a manifesté tant d'amour envers nous. Quelle valeur aurait le salut d'un Dieu capable d'abandonner les siens ? Croyons-le, que même dans l'adversité, et l'adversité peut-être la plus tragique, le Seigneur est toujours du côté de celles et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Rien ne peut nous séparer de son amour. J'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer par rapport justement à l'amour de Dieu. Comment savons-nous que Dieu nous aime ? Eh bien précisément, ce texte de Marc 15 nous le montre par la croix. La croix a eu lieu, rien ne peut annuler cet événement. Et tant que cet événement se trouve sous les yeux de Dieu, tant qu'il voit la croix, alors rien ne peut nous séparer de son amour. Et donc cela ne dépend aucunement des circonstances que nous pouvons vivre ici-bas, ni même de notre manière de nous comporter devant Dieu. Son amour, il l'a manifesté à la croix. Et tant que c'est le cas, on peut être assuré de son amour. Quel que soit ce que nous allons traverser. Je le mentionne peut-être brièvement, parce que hier, je parlais avec Asdin sur notamment les tragédies qui peuvent arriver, même aux croyants. Je crois que c'était un pasteur quelqu'un qui avait perdu dans un accident sa femme et son enfant. Est-ce que Dieu a abandonné cet homme ? Est-ce que cet homme a perdu la faveur de Dieu ? Non. Pourquoi ? À cause de la croix de Jésus-Christ. C'est comme ça que cet homme peut s'accrocher au fait que Dieu l'aime toujours. Et puis, il y a un verset que je n'ai pas encore commenté jusque-là. C'est ce qui se passe au moment où Jésus rend son dernier souffle. Verset 38. « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Concernant ce voile qui se déchire de haut en bas, déjà, on suppose bien que c'est une intervention divine. que c'est pas un homme qui s'est mis à se suspendre et à déchirer ce voile. Et comme beaucoup le pensent, ce voile qui, derrière lequel se trouve le lieu très saint. Et à l'époque de l'ancienne alliance, une seule personne, une fois par an, pouvait traverser ce voile et entrer dans le lieu où Dieu manifestait sa sainte présence. Cette seule personne, c'était le grand prêtre et aucun autre membre du peuple. Mais là, après la mort de Jésus, après qu'il pousse son dernier souffle, eh bien là, le voile est déchiré. Et cela indique que ce n'est plus réservé à une seule personne, puisque maintenant c'est ouvert. Mais l'accès est ouvert à tous. Alors certains commentateurs pensent que peut-être, puisqu'il y avait deux voiles dans ce temple, que peut-être c'était le premier voile, celui qui se trouvait à l'extérieur du temple, qui s'est déchiré. Et si c'est le cas, le sens de ce qui se passe à ce moment-là est peut-être le fait que le voile déchiré signale la fin du temple. La fin de tout le système avec les sacrifices. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, je pense que tout est compatible. Tout ça pour dire que désormais, depuis ce moment où Jésus a rendu son dernier souffle, depuis ce moment-là, pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir obtenir son pardon, il n'y a plus besoin de venir dans un temple. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifices. Jésus est ce nouveau temple. Donc il s'agit de venir à Jésus. Jésus est le sacrifice qui met fin à tous les sacrifices. Désormais, pour venir à Dieu, il faut uniquement passer par Jésus. Le voile dans le temple qui sépare l'homme de la présence de Dieu est déchiré. L'accès à Dieu est possible. Et si ce matin nous pouvons nous approcher de Dieu comme nous le faisons avec assurance, sans avoir peur d'être foudroyés sur place, c'est bien parce que le voile du temple a été déchiré au moment où Jésus est mort. Et pourtant, nous confessons que nous sommes pécheurs devant Dieu. Mais si Dieu ne nous foudroie pas sur place, c'est tout simplement parce que le voile a été déchiré et que nous pouvons nous approcher de Dieu sans avoir peur que Dieu se mette en colère contre nous. Avec Jésus puni pour nos péchés, la justice de Dieu a été satisfaite. Nous n'avons pas à faire face à la colère de Dieu, à cette colère qui tombera sur celles et ceux qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur. Pourquoi nous n'avons pas à faire face à cette colère? Parce que Jésus l'a apaisée au moment où il a donné sa vie. Donc il fallait la nécessité que Jésus puisse donner sa vie, c'est-à-dire mourir. Il a donné sa vie en rançon. Donc avec foi, venons constamment à Dieu. Profitons de ce libre accès à Dieu. Venons constamment à Dieu qui nous a pardonnés et avec qui nous sommes en paix, réconciliés. Et à cet instant, ce qui importe le plus dans notre vie, ce n'est pas tant notre famille, ce n'est pas tant notre travail, ce n'est pas tant notre santé, c'est notre relation avec Dieu. C'est ça qui est capital. Parce que Jésus est mort pour ça, pour que cette relation soit restaurée. C'est ça le plus important dans nos vies. Une relation où Dieu nous aime et où on sait qu'il nous aime, quel que soit ce qui nous arrive dans notre vie. Et une relation où nous aimons Dieu en retour. Le message qui nous est destiné ce matin est que nous pouvons nous approcher de Dieu si nous croyons que Jésus a payé pour nous. Juste une anecdote en lien avec la conférence qui avait eu lieu cette semaine sur Adam et Ève. Après avoir écouté cette conférence sur Adam et Ève, la seule pensée qui me restait, c'était d'être reconnaissant envers Dieu, d'avoir été créé pour être en communion avec lui. Si on doit se poser la question pourquoi j'ai été créé, pour être en communion avec Dieu. Et je suis tellement reconnaissant de comprendre cela et de le vivre. Dieu m'a créé exprès pour que je sois en relation avec lui. Et Jésus est mort pour que cette relation soit possible. Quelle grâce, quel amour pour des pécheurs comme nous. Et ce matin, nous nous souvenons du roi des Juifs qui a donné sa vie pour nous qui ne sommes pas juifs, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Créateur, afin que nous soyons près de lui et plus jamais loin de lui. La grâce l'a emporté sur le péché. La grâce l'a emporté sur notre péché. Et le plan pour sauver les hommes pécheurs a été accompli. C'est ce que ce texte de Marc 15 nous dévoile. Nous devons tout au crucifié qui est mort à notre place. Et nous aurons l'occasion encore de pouvoir réfléchir sur la croix ce vendredi, durant le Vendredi Saint. Mais je voudrais peut-être raconter une dernière histoire, ou en tout cas une illustration que j'ai entendue d'un autre pasteur. Au moment de votre mort, lorsque vous vous retrouverez en face de, je ne sais pas, ce qu'il disait, c'était un ange, et que cet ange vous dit « Mais pourquoi vous êtes là ? Ou pourquoi est-ce que tu es là ?» Qu'est-ce que vous allez répondre ? Est-ce que vous allez commencer votre réponse en disant « parce que je... » Non. Là, vous avez tout faux si vous commencez par « je ». Ce n'est pas ce « je » qui vous permet d'être auprès de Dieu. Si vous commencez à dire « je, bah en fait, j'ai fait ça, et puis voilà ma vie, et voilà comment j'ai vécu, et j'ai essayé de vivre du mieux que je pouvais, voilà pourquoi je suis ici. » Non. Mauvaise réponse. Et puis, ce pasteur continue l'illustration et il fait référence au brigand qui était sur la croix et qui finalement s'est tourné vers Jésus. Et ce brigand arrive aussi devant cet ange. L'ange lui pose la même question. « Pourquoi es-tu ici ? » Qu'est-ce que le brigand, vous pensez, qu'est-ce qu'il va lui répondre ? Alors avant, il lui pose d'autres questions, cet ange. Il lui dit « Est-ce que tu connais la doctrine de la justification par la foi ?» Le brigand sur la croix dit « Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas de quoi on parle, justification par la foi. » D'accord, autre question, est-ce que tu connais la doctrine des Écritures ? Que l'Écriture, c'est la parole de Dieu, tout ça. Le brigand, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais alors pourquoi tu es ici ? Qu'est-ce que le brigand va répondre ? Parce que l'homme qui était sur la croix à côté de moi m'a dit que je pouvais entrer. C'est ça la bonne réponse. C'est ça que vous pourrez dire lorsque vous retrouverez peut-être, on ne sait pas, c'est imaginaire, un ange qui vous pose la question « Pourquoi êtes-vous ici ?» Parce que lui, Jésus, il m'a dit que je pouvais entrer. Je vous invite à prier. Nous nous rendons compte à quel point il est primordial de lire ce texte que nous avons lu ensemble avec la bonne écoute, avec les bons yeux, pour regarder non pas tous ces personnages qui grouillent autour de Jésus, mais de regarder à Jésus, parce que c'est lui le plus important, parce que c'est effectivement lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui a été ce sacrifice pour nous, un sacrifice qui était nécessaire pour que nous puissions être pardonnés, pour que le salut soit possible, pour que nous puissions avoir la vie éternelle à tes côtés. Et sans ce sacrifice, sans Jésus, alors nous n'avons aucun espoir ici-bas. Aucune raison de pouvoir dire quoi que ce soit lorsque nous serons interrogés sur le fait d'être là. Non, Seigneur, seul Jésus nous ouvre cette porte. Seul Jésus nous permet de pouvoir justifier la présence que nous aurons à tes côtés. Et nous le croyons, Seigneur, et nous voulons nous y attacher de toutes nos forces et en même temps t'exprimer toute notre reconnaissance pour ce que Jésus a accompli pour nous. Te remercier parce que c'est grâce à lui que nous pouvons nous approcher de toi. Que c'est grâce à la souffrance qu'il était prêt à souffrir, à subir, cet abandon qu'il a également éprouvé, qui nous permet d'être épargnés, de nous sentir totalement abandonnés par toi. Non, bien au contraire, tu ne nous abandonneras jamais à cause de Jésus. Bien au contraire, tu nous aimes et tu nous l'as prouvé par la croix. Merci, parce que nous confessons avec cet officier romain que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.